C'est en arrière. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous ce matin, par la grâce de Dieu. Hein, nous sommes réunis pour la gloire aussi du Seigneur ce matin, et c'est un privilège. Merci pour ces beaux chants, ces beaux cantiques qu'on vient de chanter, qui nous invitent à nous approcher de Dieu ce matin, nous approcher du Seigneur, et c'est bénissant comment est-ce que le Seigneur travaille, hein, que même... au travers les cantiques qui l'inspirent, bien, ça nous amène et ça l'amène notre cœur à son message, à ce que lui a à nous annoncer ce matin. Donc, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous, ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux. Je ne veux pas les oublier, c'est pour ça que... des fois, ils ne pensent pas. On finit par oublier la petite caméra qui est toujours là. Bien, on salue ceux qui nous suivent de la maison, ceux qui sont malades, ceux qui sont trop loin aussi. On a des gens aussi, un pasteur du Congo qui m'a écrit cette semaine, ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu ses nouvelles, donc qui nous suivent là-bas, Église Source d'amour d'espoir du Congo. Donc, on vous salue. Donc, le message que ça a remis sur mon cœur ce matin, l'amour de Dieu réconcilie. Est-ce qu'on réalise tout ce que l'amour de Dieu produit en nous, ce que l'amour de Dieu fait dans notre cœur, dans notre vie? Parfois, on l'oublie, hein? Ça devient comme un naturel dans la vie chrétienne. Et on marche avec le Seigneur, on assiste aux réunions et on prie, on lit la parole de Dieu. Et on s'arrête. Et ce matin, je veux qu'on s'arrête sur cette grâce qui est définie en tant que réconciliation. Une grâce qui est une réconciliation, et la grâce a aussi cet aspect de l'amour de Dieu qu'on va voir ce matin au travers du message. Et à travers tous les temps, lorsque je méditais sur ce message de ce matin, bien, je pensais à travers tous les temps, Dieu a toujours désiré réconcilier le monde avec lui. Vous savez, à partir de la Genèse, aussitôt que le péché est entré, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a voulu réconcilier. Il a voulu avoir une entente avec sa création, avec sa créature. Donc, même depuis le début, c'est le cœur de Dieu qui se révèle à travers cet appel de réconciliation. Et je devrais dire qu'aussi, à travers cela, Dieu laisse le libre arbitre ou le libre choix à chacune des personnes. Il n'y a personne qui est obligé de recevoir cette réconciliation ou cet amour de Dieu. Il nous laisse toutes libres, chacun d'entre nous, de décider si on le veut ou pas. Chaque être que Dieu a créé doit savoir et réaliser ceci, que c'est parce que Dieu m'aime que j'ai besoin d'être réconcilié avec lui. Et ça, c'est la plus belle pensée que vous pouvez vous rappeler ce matin, c'est celle-là. Que c'est parce que Dieu m'aime que j'ai besoin d'être réconcilié avec lui. C'est pas parce que je fais ci, je fais ça, parce que je suis une bonne personne, que je fais des bonnes choses et ainsi de suite, mais tout simplement parce que lui m'a aimé le premier. C'est ça le plus grand message de l'Évangile. La réconciliation est une nécessité pour chaque être humain et même pour chaque disciple du Seigneur. Et je nous inclus ce matin. Parce qu'on parle, oui, la réconciliation, le monde en a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous aussi, on s'oublie dans l'affaire. Nous aussi, nous avons besoin de la réconciliation, d'être réconciliés avec Dieu, même si nous marchons avec lui. À chaque jour, nous avons toujours besoin de revenir chercher la réconciliation. Comme un enfant, hein, qui se blesse, quel est son premier réflexe? D'aller voir le parent, d'aller chercher un petit peu d'affection, chercher un peu d'amour. Eh bien, la même chose, même pour le chrétien ce matin, nous avons besoin d'aller chercher l'amour de Dieu. Nous avons toujours besoin d'aller vers lui. Même si on est chrétien et qu'on marche avec le Seigneur depuis quelques semaines, des mois, des années, c'est quelque chose qui est, nous avons toujours besoin d'aller vers. Donc, c'est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose qui est préférable ou qui devrait, mais c'est une nécessité. C'est un devoir même pour nous. Et cela à cause du péché qui sévit dans le monde dans lequel nous sommes et nous vivons. Et puisque l'homme et la femme entretiennent des rapports d'hostilité ou d'éloignement avec Dieu à cause du péché, car c'est cela qui nous éloigne de Dieu. Dieu, lui, veut réconcilier, mais à cause du péché, à cause de notre lutte contre le péché, nous avons besoin de réconciliation ce matin. Nous devons toujours nous rappeler son amour et revenir nous réconcilier avec lui. Toujours et toujours. Il est donc nécessaire, obligatoire et impératif de recevoir par la grâce de Dieu son amour qui a été manifesté par son Fils, mort à la croix, pour toi, pour moi et pour nous tous ce matin. Je pensais à ceci, j'ai entendu une phrase similaire à un moment donné, et ça me revenait lorsque je méditais sur cela, et ça dit ceci: comment une personne qui a vécu toute sa vie sans s'avoir intéressé à l'amour de Dieu pour lui, et sans avoir été réconcilié avec lui par la foi et l'œuvre de Jésus à la croix pour lui, comment cet homme, cette femme peut penser être un jour avec lui pour l'éternité? Comment est-ce que je peux m'attendre à être avec le Seigneur pour l'éternité si je m'en suis pas préoccupé tout au long de ma vie? Vivre sans Dieu, sans loi, sans foi, oui, c'est faisable. Mais tu ne peux pas t'attendre à la présence de Dieu après cette vie. Nous avons besoin du Seigneur, de son amour. Et ce qui nous amène à notre passage de ce matin, où Paul encourage l'Église en disant ceci dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 20 à 22. Et Paul dira ceci: il, en parlant de Dieu, a voulu par lui, en parlant de son Fils, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pourquoi il a fait cela? Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Il y a une raison pourquoi la réconciliation, elle fait partie de ces devoirs et de ces choses que nous avons à faire. Parce qu'il y a une grâce qui l'accompagne. Il y a une promesse, il y a des promesses qui l'accompagnent cela. Dieu nous dit que c'est par lui, par son Fils, Seigneur Jésus, qu'il a voulu réconcilier l'univers tout entier avec lui-même. Avez-vous déjà réfléchi à ça? C'est par son Fils que Dieu a voulu tout réconcilier, l'univers tout entier avec lui. C'est grand, l'amour de Dieu. C'est grand, la grâce de Dieu. Et la réconciliation, c'est grand. Ça l'englobe tout l'univers. Jésus est garant. Et j'avais dans ma Bible un titre qui parle que Jésus-Christ est aussi l'auteur de notre rédemption. Il est garant porteur d'une paix qui est non seulement personnelle à chaque enfant de Dieu ce matin, mais aussi du maintien d'une paix dans tout l'univers. Vous savez que lorsque Dieu enlèverait sa main, que le Seigneur enlèverait sa main de sur l'univers, il n'y a plus rien qui va tourner comme il faut. C'est parce que le Seigneur est en contrôle de tout que tout marche et tout avance et que tout est réglé. Et lorsque le Seigneur enlèvera sa main, il n'y a plus rien qui est réglé. Tout est déréglé. Tout se tient à cause de lui et par lui. Tout se tient à cause du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus est mort à la croix, cela n'a pas seulement bouleversé le cœur et les vies de ceux qui ont été témoins de ces événements. Je réfléchissais à cela, là, et j'étais béni. J'étais béni. Parce que malgré Jésus est mort à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés, c'est pas seulement cela qui a été affecté, le cœur de ceux qui étaient là. Je réfléchissais à ça, puis j'étais béni, frère et soeur. Mais aussi, sa mort a eu des effets sur le naturel, les choses naturelles de l'univers. Car l'univers entier raconte encore sa mort et bouleverse encore ceux qui sont appelés aujourd'hui par l'Esprit du vivant. La terre a été ébranlée lorsque Jésus est mort. Ceux qui étaient là ont été ébranlés. Mais la terre aussi a été ébranlée. Et elle l'est encore ce matin. Elle l'est encore ébranlée. Par ceux qui s'approchent de lui par la foi. Par la foi. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 10, il nous est dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous aussi, serons-nous sauvés par sa vie. Personne sur terre, et qu'importe l'importance, sa grandeur, sa renommée, n'a ébranlé la terre et ressuscité les morts. Ou n'a été ressuscité lui-même. Car Jésus est sans égal. Dans tout, même dans sa mort, dans sa vie, mais dans sa mort et dans sa résurrection. Il est plus. Tant par sa vie que par sa mort et sa résurrection. On va voir ces textes. Dans Luc chapitre 23, versets 44 à 48, et je vais faire une parenthèse avec Matthieu 27, versets 51-52, et ensuite on va venir à notre texte de Luc 23 et la suite des versets 47 et 48. Donc j'ai fait un petit mélange parce que Matthieu ne parlera pas d'un certain point que je voulais mentionner au travers la mort du Seigneur. Donc ici, dans Luc 23, chapitre 44 à 48, il était déjà environ la sixième heure, qui est midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Déjà, en partant, ça annonce bien, hein? Jésus n'est pas mort comme n'importe qui. Il y a eu des ténèbres, même à partir de midi jusqu'à 3 heures l'après-midi. C'est pas arrivé en fin de soirée pour essayer de jouer avec, mais peut-être qu'il y avait des nuages cette journée-là. C'est arrivé à midi, puis il y a une raison pourquoi. Et cela a duré quand même 3 heures. Verset 45, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et pour ceux qui connaissent un petit peu comment est-ce que ça fonctionne dans le temple, notre frère nous a déjà partagé aussi par rapport au temple, il y a un voile qui sépare entre le lieu saint et le lieu très saint. Et lorsque Jésus est mort, le voile a été déchiré, ouvrant une brèche, une porte, afin que ceux qui soient dans le lieu saint puissent entrer dans le lieu très saint. Que celui qui se convertit à Christ puisse s'approcher de Dieu avec une pleine liberté au travers le voile. Wow! Quelle belle image! Verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Sa confiance, la confiance du Seigneur. Et, en disant ces paroles, il expira. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 51-52 et 52, il dira, « Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Et ça, c'est un point spécifique que Matthieu va relever ici, que je voulais parler. Parce que tantôt, je parlais que Jésus n'est pas mort comme les autres, parce que même à sa mort, il y a des morts qui sont ressuscités. Il est arrivé des choses invraisemblables que personne, à qui personne n'est arrivé. Et la suite de notre texte, dans Luc chapitre 23, versets 47 et 48, nous dit « Le centenier voilant ce qui était arrivé, glorifie à Dieu. » Wow! Gloire au Seigneur! Hey, ça devait être des louanges qui venaient de plus profond de son être. Lorsqu'il a réalisé qui était celui qui venait de mourir sur la croix. Et certainement, cet homme était juste, ce qui signifie innocent et droit. Assistaient ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui ont vu cela ne sont pas en retournés en disant « Gloire à Dieu, il est mort ». Non, ils se sont en retournés en se frappant la poitrine. Et cela signifie un profond repentir. Un profond repentir. Et plusieurs personnes encore aujourd'hui, lors de profonds repentirs, versent des larmes en donnant leur vie au Seigneur. C'est pour ça que je disais qu'encore aujourd'hui, sa mort a un effet dans le cœur des personnes. Des gens qui se tournent et placent leur foi en lui, qui se tournent vers lui. Et pourquoi? Parce que la même chose que pour eux, ils réalisent leur état de pécheur. Leur désobéissance et leur nonchalance envers tant d'amour pour eux à la croix. Car oui, la croix transforme encore les cœurs et les vies en ceux qui placent leur foi et leur confiance. Amen. Un autre endroit dans les Écritures nous explique la réconciliation active envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans ses relations personnelles, pour recevoir et vivre une relation personnelle avec lui. Bien que l'Église de Corinthe fût une assemblée de croyants ayant de grands défis, on va le dire comme ça, pas dire des péchés, ou on pourrait dire péchés aussi, mais ils avaient de grands défis, tout comme la plupart des églises d'aujourd'hui. Parfois, on pointe du doigt en Corinthe, si, Corinthe ça, Corinthe était dans toutes sortes de débauches, toutes sortes de choses qui se passaient là. Mais on voit encore aujourd'hui, c'est le même, je vais vous dire, le même pattern qui se passe souvent dans les églises. Parce que l'église n'est pas parfaite. Même si le Seigneur, lui, est parfait au milieu de son église. Pourquoi est-ce que l'église n'est pas parfaite? À cause du péché. Et à cause de cette chair que, comme Paul va dire, je me combats avec ma chair contre ma chair parce que je veux faire des choses que ma chair va me faire faire le contraire de ce que Dieu voudrait. Donc, c'est un combat constant et nous sommes de bons combattants avec le Seigneur. Donc, elle demeure un exemple quand même où la grâce de Dieu a surabondé, l'Église de Corinthe. Dans cette deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 19, il a dit ainsi, « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Verset 18, « Et tout cela vient de Dieu, de sa grâce, de son amour. Hein? On pourrait dire ce matin, entre parenthèses, on pourrait inclure sa grâce et son amour au travers de cette expression de Paul. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Vous voyez ici, par Christ, pas par personne d'autre, mais par Jésus-Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, leurs fautes, leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Et c'est pour cela que nous ne sommes plus rien aux yeux de Dieu. C'est pour cela que nous sommes une nouvelle créature, à cause de l'œuvre de Dieu en nous. Pas à cause de ce que moi j'ai fait, mais à cause de ce que lui a accompli. À cause de ce que lui fait dans ma vie. Désormais, puisque nous sommes en Christ, chacun de ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, dans leur vie, sont en Christ, sont en lui. Nous ne considérons plus nos frères et sœurs dans le Seigneur selon les critères du monde, puisqu'ils sont devenus une nouvelle créature transformée, délivrée et bénie de Dieu, ayant revêtu l'esprit de la consolation et de la révélation par l'amour de la réconciliation du Fils en eux. Amen. C'est bénissant ce matin. C'est bénissant. Se rappeler ces choses, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, il nous a transformés. Et lorsque je vois mes frères et sœurs, je vois des personnes transformées. Je vois des personnes qui travaillent comme moi et qui combattent comme moi pour l'œuvre de Dieu. Pour être à l'image de celui que nous suivons et que nous marchons pour lui. Je ne vois plus des personnes à conquérir. Hein, on pense aux conquérants. Bien cette pensée-là. On n'est plus en train de conquérir. Nous sommes dans l'Église, nous sommes supposés être entre frères et sœurs, des personnes qui s'aiment et qui travaillent ensemble à l'œuvre de Dieu. Et c'est à cela que Paul va consacrer son temps aussi. À dire, faites attention de la manière que tu parles, de la manière que tu agis. Fais attention avec ton frère, ta sœur, comment est-ce que tu traites les enfants de Dieu. Parce que oui, les frères et sœurs sont les enfants de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'appel à nous réconcilier avec Dieu et avec les autres vient du mot « pardon ». Changer le cœur en le libérant d'un poids lourd ou d'un joug. Remplacer un fardeau léger et en paix. Remplacer par un fardeau léger par une paix. C'est ça que produit la réconciliation. Ça fait une transformation à l'intérieur, profond. Dans Matthieu 11, verset 30, Jésus nous dira, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Est-ce que c'est cela que nous vivons avec le Seigneur? Un fardeau qui est, ou un joug qui est doux et un fardeau qui est léger. Entre frères et sœurs. Est-ce que je suis capable de pardonner comme le Seigneur m'a pardonné? Est-ce que je suis capable d'avoir ces paroles de réconciliation, comme on a vu tantôt, que le Seigneur a mis en moi envers les autres aussi? Parce que oui, la réconciliation, elle doit être entre nous et Dieu, mais aussi entre nous et les autres, que Dieu a créés à son image. Devons tous travailler ensemble, frères et sœurs, à être disposés toujours à pardonner. C'est pas facile, hein? Des fois, c'est plus difficile que d'autres. Mais c'est ça, la réconciliation. Et si Dieu a placé en nous la parole de la réconciliation, c'est qu'il veut qu'on s'en serve, nous aussi. À se réconcilier, à chercher toujours à s'aimer, à s'encourager, à se garder dans la prière, à être là aussi pour les autres. Le mot grec apokatalos kalasso signifie réconcilier complètement et implique une transformation complète d'un état à un autre. De l'inimitié en amitié, souvent avec un élément de restauration de quelque chose à son état d'origine ou d'instauration d'un état paisible dans une relation qui a été endommagée. Donc, c'est des contraires. Hein? C'est contraire à notre nature, je devrais dire. La réconciliation. Et ce n'est pas ce que nous encourageons, ce que le monde va encourager à faire, à se réconcilier. Souvent, on a plus, comme je voyais un post cette semaine, où il disait, moi, je suis plus l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Je suis plus selon la loi de l'Ancien Testament. Mais le Seigneur nous a appelé la grâce. C'est la grâce que le Seigneur nous a appelé. Et pourquoi il nous a donné son esprit? Afin qu'il nous éclaire, afin qu'on puisse marcher selon la grâce et l'amour de Dieu, et non selon des lois humaines ou des commandements humains. Éphésiens chapitre 1, verset 7, il nous a dit, ou Paul nous dit ici, « En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Hein, vous voyez ici, la rémission nous parle d'un enlèvement complet, d'un effacement complet des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et le Seigneur est riche. Et lorsque j'ai écrit riche, j'ai écrit à côté milliardaire. Le Seigneur est milliardaire dans ses dons de grâce, dans sa grâce. Il y en a en abondance. Et j'aime ça. J'aime ça, moi, que le Seigneur agisse comme ça. Et j'aimais la traduction aussi du français courant. Il va dire, par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Hein, il n'y a pas de à peu près ou peut-être. Ou Non. Délivrés du mal, nos péchés sont pardonnés, c'est réglé une fois pour toutes, et Dieu nous a ainsi montré la richesse de sa grâce par cela. C'est par cela que le Seigneur nous a montré la grandeur de la richesse de sa grâce. Et pour celui qui a péché abondamment, bien, le Seigneur va faire grâce encore plus en abondance. Il n'y a personne qui peut dire, « Moi, je suis venu au Seigneur, j'avais tellement de péchés qu'il m'en a enlevé juste la moitié. » Non. Le Seigneur ne marche pas avec des moitiés. Il marche avec tout. C'est tout pour pas en tout, hein, comme on dit. Et lui, il ne fait pas ça à moitié. Il délivre du mal et il pardonne. Il pardonne une fois pour toutes. C'est réglé. Il n'y a aucune action humaine qui puisse remplacer la délivrance et le pardon du Seigneur dans une vie et une âme. Car c'est par l'acte et l'action de son sacrifice seul et de son amour pour toi, que tu peux avoir la victoire et sa grâce ce matin. Une grâce active, une grâce qui agit et qui est là disponible, toujours à notre portée. Toujours à notre portée. Dans la parole de Dieu, une rançon est un prix exigé pour racheter quelque chose ou libérer quelqu'un de la captivité, d'une dette ou d'une condamnation. De libérer complètement, on va dire, quelqu'un. Dans la première lettre de Timothée, première épître de Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, il a dit, « Car il y a un seul Dieu » et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ce qui est donné par un autre comme prix de rédemption, rançon ou rachat. C'est Jésus qui est celui qui a tout donné, qui a tout accompli. Car la rédemption est une nécessité pour chaque être humain qui désire entrer dans la présence de Dieu un jour. Dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24, il nous a dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc la rédemption apporte dans le cœur repentant d'être justifié, racheté, délivré et pardonné. Plusieurs mots ici utilisés dans la parole de Dieu pour expliquer ce que nous avons reçu en Jésus et ce que nous avons en lui. Il nous a pardonné, il nous a libérés, il nous a rachetés. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 15 et 16, nous dira que celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il y a un attachement qui se produit lorsqu'on reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a quelque chose qui se passe entre nous et Dieu. Une connexion. Et j'aimais cette image. Hein, un frère, à un moment donné, avait amené ça, puis il dit, si je veux de l'eau chaude dans la cafetière, bien, je dois brancher dans la cafetière d'emprise. Il dit, même si ma prise est proche, puis j'ai essayé cette semaine, parce que je ne voyais pas bien, genre une prise était mal placée, puis là, je pensais avoir branché, puis je me suis aperçu qu'il y avait juste une dent qui était branchée d'emprise, puis l'autre était à côté. Je n'ai pas de plastique sur cette prise-là. En tout cas, on fait attention, moi. Mais, je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Même s'il y a juste une dent branchée ou qui reste à côté, j'aurais pas d'eau chaude. C'était pas de l'eau chaude, j'avais besoin, mais pour notre exemple, j'aurais pas d'eau chaude. Il faut vraiment que les deux branches soient branchées dans la prise. Il y a certaines personnes qui viennent au Seigneur, qui entendent parler du Seigneur, puis ils restent à côté, mais ils ne font pas le pas. Pour d'autres personnes, ils viennent au Seigneur, ils se branchent juste un bord. Négatif ou positif, qu'importe. Ça ne marche pas pareil, c'est juste un bord de branché. Ils sont là à l'église, ils participent, ils suivent les cultes et ainsi de suite. Mais ils ne veulent pas accepter le Seigneur. Ils ne veulent pas faire le pas de foi pour accepter le Seigneur. Ils restent branché, mais à moitié. Mais ça ne marche pas. Il n'y a rien qui se passe. Après ça, ils viennent de voir, ils disent, « Pasteur, je fais tout ce que j'ai à faire, mais le Seigneur ne me parle pas, il ne se passe rien dans ma vie. » Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as reçu le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu as été réconcilié avec lui? Ouais. Hein? Des fois, c'est ça qui manque. On est bien proche, on n'ose pas faire le pas. Et j'inviterais ceux qui sont proches de la prise, proches de Dieu ce matin, à faire le pas de foi. À faire le pas de foi. Oui, Seigneur, bien, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me coûte? Comparativement à ce que toi, ça t'a coûté. Qu'est-ce que ça me coûte de faire le pas de foi par rapport à ce que toi, tu as tout accompli et ton amour, tu me l'as prouvé. Tu me l'as montré. Et je vois ton amour, Seigneur, au travers les frères, les sœurs, au travers ma vie, au travers l'univers. Parce qu'on a vu ce matin que Jésus, lorsqu'il est mort, ça n'a pas seulement affecté le cœur de ceux qui étaient près de lui, mais ça l'a affecté aussi tout l'univers. La terre a tremblé, les morts sont ressuscités. Ça l'a chamboulé beaucoup plus que juste le cœur de, même si c'est grand, même si c'est grand, un seul qui se convertit au Seigneur. Et vous le savez comme moi, les gens se réjouissent en présence de Dieu lorsqu'une seule personne se convertit à Christ. Goûtez l'amour de Dieu. Goûtez l'amour de Dieu. Ensuite, Jean nous dira, verset 16, dans 1 Jean chapitre 4, « Et nous avons connu l'amour de Dieu. On a connu que l'amour de Dieu a pour moi, a pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait de cet amour? Il dit, « Et nous y avons cru. Nous y avons mis notre foi, notre confiance. Nous sommes ouverts à lui. » Nous sommes ouverts au Seigneur. Et Jean nous dira que Dieu est amour. C'est indiscutable, Dieu est amour. Il n'y a personne qui peut douter de l'amour de Dieu ce matin. Qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ton passé, il n'y a personne qui peut douter de son amour. Parce que Dieu aime. Il est amour. C'est pas peut-être. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Le monde cherche l'amour, cherche le bonheur, cherche le bien-être aujourd'hui. La réponse est en Jésus. La réponse est de se tourner vers Dieu, réconcilier avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Si tu agis de la sorte, si tu te tournes vers lui, que tu fais confiance, que tu places ta foi en lui et dans son amour, qu'est-ce qu'il nous dit la fin du passage? Bien, que Dieu demeure en lui. Que Dieu te promet d'être toujours en toi. Qu'importe ce que tu fais, tu vas voir qu'il va se passer de quoi si tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Là. Tu vas peut-être avoir des conséquences, là, mais quelque chose de certain, c'est que Dieu va toujours être avec toi. Qu'importe où ce que tu penses, qu'importe la situation ou où ce que tu te trouves, le Seigneur va être là. Ça, c'est sa promesse. Et Dieu, lorsqu'il donne une promesse, il la respecte. Il n'y a pas une voix d'homme pour, hein? Je pense à certains passages. Il n'y a pas un homme pour mentir. Mais Dieu, lorsqu'il dit, il le fait. Et ce matin, sa promesse pour toi, celui qui confesse, et si tu confesses Jésus comme fils de Dieu, bien Dieu demeure en lui comme il demeure en toi. Il va demeurer en toi comme il demeure en son fils, devrait dire. Et j'aime le verset 16, parce que Paul dit que nous avons connu l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que nous marchons avec lui. Parce que nous avons connu son amour. Comment est-ce que vous avez connu son amour? On pourrait passer des heures, par exemple. On pourrait passer des heures à connaître comment est-ce que Dieu a manifesté son amour envers chacun de vous ce matin. Par le témoignage de sa vie en vous. Parce qu'il a transformé en vous de ce que vous n'étiez pas avant. Faudrait que je réserve encore une heure là, pour juste mon témoignage, mais... Le Seigneur a tellement fait, a tellement accompli, a tellement transformé des choses. Je vais en donner quelques-uns. Mais je ne peux pas toutes les donner. Mais lorsque je suis venu au Seigneur, le Seigneur a enlevé le blasphème de ma bouche. Et je blasphémais comme un bon Québécois. Je ne peux pas dire un bûcheron, mais ça se ressemble. Un bon Québécois qui se pensait bon. Et le Seigneur a enlevé. Enlever ça dans ma bouche. J'étais un gars timide, un gars renfermé, le 9e d'une famille de 10, puis j'avais pas grand place. J'étais comme au bout de la ligne, puis on n'a pas le temps pour nous. Une famille qui est bien occupée, puis il n'y a pas le temps de s'occuper des enfants. On était laissé le temps à nous-mêmes. Dans ce temps-là, ça se passait. Et ça a fait que j'étais un enfant renfermé, timide, avec beaucoup de problèmes de comportement et ainsi de suite, qui restaient des traces. Un jour, le Seigneur m'a fait connaître mon épouse, qui elle était chrétienne, qui a parlé avec sa mère, la famille, chrétien, puis tout ça, j'ai entendu parler du Seigneur. Malgré que j'avais des sœurs qui étaient chrétiennes, puis que ça ne m'intéressait pas, les choses de Dieu, de la Bible, ces choses-là. Et des fois, ils partaient ensemble dans le temps des fêtes, ils allaient prier ensemble. Puis, c'est leurs affaires qui s'arrangent. Puis, à un moment donné, ben, avec mon épouse, j'ai entendu parler du Seigneur. Là, oups. Et c'est drôle comment est-ce que c'est arrivé. Je vais donner un petit grid test ce matin. Et je travaillais avec quelqu'un qui était chrétien aussi. Tu sais comment est-ce que le Seigneur travaille, hein? De différentes façon, de différents angles. Et je travaillais avec quelqu'un aussi qui était chrétien. Et à un moment donné, je parlais avec, il me dit, « Ah, là, qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu murmures? » Parce qu'il chantait tout le temps en travaillant des cantiques, des vieux cantiques. Fait que, là, « Qu'est-ce que tu chantes? » »« Ah, c'est des chants chrétiens, évangéliques. » Il dit, « Ah, t'es évangélique, toi. » Fait qu'il dit, « Ouais, je vais à telle place. » Puis, ça reste de même. Fait qu'à un moment donné, là, mon épouse a rencontré quelqu'un dans la rue qui était enceinte, puis la même, quasiment la même grosseur de grossesse qu'elle était rendue avec elle. Fait qu'elle commence à discuter avec, elle est chrétienne. Fait qu'à un moment donné, elle me dit, je vais aller manger avec eux autres un midi, ben c'est correct. Fait que là, le soir, elle dit, là, elle dit, j'ai été touchée. Elle dit, Seigneur m'a touchée, puis elle dit, je vais aller à cette église-là. Je dis, OK, c'est où? Elle me dit, la même église que où est-ce que le gars avec qui je travaillais va. Puis je travaillais à Montréal, puis on était de Saint-Hyacinthe. Je dis, comment est-ce que je travaille à Montréal, je peux travailler avec quelqu'un qui va à la même église que eux autres qui parlent? C'est quoi le lien? Comment ça se fait que lui, à Montréal, me parle d'une église à Saint-Hyacinthe? Où est-ce qu'elle a entendu parler que l'autre couple y allait? Vous comprenez? C'est comme invraisemblable. C'est vraiment bizarre. J'y vais. Je ne peux pas y aller. Là. C'est comme lui, il va là. Elle est invitée là. Fait que, donc, on va à l'église. Puis ça n'a pas été bien long. On a accepté le Seigneur. Puis le Seigneur a commencé à travailler. C'est là que, comme je disais tantôt, le blasphème est parti et ensuite, beaucoup de choses ont changé tranquillement et ça a donné de l'assurance dans l'œuvre. Toujours dans l'œuvre, le Seigneur m'a façonné hein, comme un vase. Le Seigneur m'a travaillé, m'a façonné d'œuvre en œuvre à faire la personne que je suis aujourd'hui qui est capable de témoigner de l'Évangile, de parler du Seigneur, même d'être pasteur. Donc, le Seigneur, c'est lui qui a fait. J'ai aucun mérite. C'est lui qui a accompli de grandes choses dans ma vie. C'est lui qui m'a emmené où je suis. Je ne peux même pas dire c'est à cause que j'étais intelligent, c'est à cause que j'étais une personne sûre de moi, j'étais ci, j'étais ça. Je n'étais rien de ça. C'est le Seigneur et seulement lui et à cause de lui. Et ça, c'est le plus beau miracle. Quelqu'un me dit, est-ce que tu es sûr d'être à ta place comme pasteur? Moi, non, mais lui, oui. Moi, non, mais lui, oui. parce que je ne suis jamais à la hauteur. Je ne suis jamais à la hauteur. Mais lui va me rendre à la hauteur. Qu'est-ce qui est important? C'est de faire sa volonté. D'être à son écoute et d'obéir lorsqu'il m'appelle. Lorsqu'il t'appelle. D'obéir. Et vous allez voir que son amour est véritable. Il ne te laisse pas tomber. On a eu des difficiles. Certains connaissent certaines choses, mais on a eu des difficiles. Mais le Seigneur nous a toujours montré qu'il était là. Il est toujours venu nous rechercher sur nos bords. Il dit, hey, tu t'en vas par là, toi. Comme un petit enfant, des fois, qui dévie. Et on pense au psaume 23, la roulette et le bâton, qui vient te rechercher, te ramène dans le droit chemin avec un petit coup de baguette. Hein, t'as-tu compris? Mais la main de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas un coup pour te faire jambetter puis t'écraser. Mais c'est toujours pour te rendre plus fort. Pour terminer ce matin, l'amour de Dieu te réconcilie avec son Fils et par sa présence et la présence de son Esprit en toi, afin de nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. C'est cela que nous disait Colossiens tantôt. Verset 22. Pourquoi que le Seigneur nous a réconciliés? Afin que nous soyons à lui. Afin que nous soyons à l'image, à ressemblance de son Fils bien-aimé. Afin de faire de nous un peuple, un héritage, de faire de nous, ses enfants, les fils des filles de Dieu. Nous assurant ainsi une place avec lui pour l'éternité. Et c'est le Seigneur qui dit lui-même dans le psaume 91, versets 14 à 16, j'invite à tourner ceux qui ont leur Bible. En rapport avec ce que Jean nous a appris sur l'amour de Dieu, verset 91, verset 14 à 16, nous dira, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir mon salut. » Est-ce que tu as invoqué l'Éternel ce matin? Est-ce que tu as répondu à cet appel de son amour, de sa réconciliation? Bien, il y a des promesses que le Seigneur donne à ceux qui le font. C'est qu'il va répondre. C'est qu'il répond. Et qu'importe, comme je disais tantôt, où est-ce que tu te trouves dans les détresses dans lesquelles tu te trouves, bien le Seigneur va revenir te fortifier. Pourquoi? Afin que tu le glorifies, lui. Non de ce que toi, tu as été capable de faire, mais de ce que lui a fait. Alléluia. Merci, Seigneur. Toute louange, tout honneur, toute gloire à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Donc, je vous inviterai à vous lever et on va terminer par un mot de prière ce matin. Bien, éternel notre Dieu, merci pour cet amour de la réconciliation que nous voyons au travers ton cœur, au travers la croix, au travers tout ce que le Fils a accompli pour chacun de nous. Seigneur, je te prie de toucher nos cœurs ce matin, transformer nos vies, de nous rapprocher de toi, Seigneur, comme toi tu t'es rapproché de nous. Afin, Seigneur, que nous puissions goûter cet amour que toi tu nous as manifesté envers nous, et que cet amour, Seigneur, puisse paraître, transparaître au travers de chacune de nos actions, nos paroles, nos pensées. Seigneur, que tout serve, Seigneur, à te glorifier, toi seul. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui prennent ces engagements, qui prennent cet engagement ce matin, envers toi, envers ton amour, et envers cette réconciliation que tu désires avec nous. Seigneur, pardonne nos fautes, nos péchés, nos égarements, nos éloignements, nos doutes, et viens les transformer, les changer, Seigneur, par ta paix, ta présence. Parce que toi, tu es, Seigneur, par tes attributs. Seigneur, merci d'être à l'œuvre en chacun de nous, et que cette œuvre, tu la rendras parfaite au jour de Christ. Afin que nous puissions être avec toi et dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, glorifie ton nom en chacun de nous par le précieux nom de Jésus ce matin. Amen et Amen. Soyez bénis, passez une belle semaine.